Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de ce que l'on appelait la Middle Europa, sous le signe de la guerre et de la paix aussi, avec arcs et flèches paraguayennes, chars soviétiques T-34 et éléphants de combat de Ptolémée IV Philopator d'Égypte, sous le signe du musée comme roman ou du roman comme musée, sous le signe du monde ouvert contre les frontières avec un écrivain qui les transcende toutes, puisqu'il est né en 1939 dans une ville traversée, lacérée par ses frontières, Trieste, au carrefour des cultures italiennes, germaniques, slaves, une ville qui ne cesse de nourrir les méditations de l'écrivain. Bonjour Claudio Magris.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous êtes traducteur de Kleist, de Schnitzler, de Büchner, vous êtes un voyageur à la fois dans le temps et dans l'espace, vous êtes éditorialiste aussi pour le Corriere della Sera.
Depuis 50 ans.
Depuis 50 ans, 50 c'est ça. Ans. Vous avez été primé dans tous les pays, prix Strega, le Goncourt italien en 1997, prix Prince des Asturies là, en Espagne en 2004, prix de la paix des libraires allemands, donc en Allemagne en 2009.
Ça a à voir avec les romans
classés sans suite, oui, dont on va parler. Et les Français vous ont découvert massivement et aimé avec Danube, qui était une forme de journal sentimental, un essai nourri de fiction, vous appelez ça un roman submergé, où vous suiviez l'histoire et les mythes charriés par le grand fleuve de la forêt noire à la mer noire. Vous êtes aussi l'auteur d'une œuvre protéiforme, hein, où l'on trouve des romans comme Enquête sur un sabre, qui est votre premier roman, ou À l'aveugle, à justement Danube, j'en parlais, ou Microcosme. Et ces textes ont fait de vous, peu à peu, l'une des figures majeures à la fois de la culture italienne et de l'humanisme européen. Est-ce que c'est un mot que vous aimez, Claudio Magris, le mot humaniste? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est difficile à prononcer, comme si c'était l'équivalent de naïf, voire d'élitiste un peu contemplatif dans une époque qui semble de plus en plus renouer avec la haine.
Oui, c'est une question très difficile à répondre. Alors, bien sûr, je me reconnais dans l'humanisme, si par humanisme on entend le sentiment, la pensée de situer l'homme au centre. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de sauver un individu que découvrir une nouvelle étoile ou quelque chose comme ça. Alors, de ce point de vue, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humanisme. Mais les mots humaniste a pris d'un côté une signification un peu rhétorique, l'humanisme contre la technique, la technologie, c'est juste, mais un peu affaibli par la rhétorique. Et de l'autre côté, ces mots ont été utilisés par beaucoup d'intellectuels, philosophes, d'une façon tellement large, tellement vague, indistincte. Disons, les philosophes, beaucoup parmi eux français aussi, qui d'un certain côté, en suivant Nietzsche, on parlait d'un humanisme qui n'est plus humaniste. Alors, c'est un mot que j'utilise très rarement. Borges a dit qu'un écrivain arabe ne nomme pas le désert parce qu'il n'a pas besoin de nommer le désert, c'est sa patrie.
Vous dites souvent que vous êtes un patriote européen. Qu'est-ce oui. que ça veut dire, un patriote européen?
Non, patriote européen de si. C'est-à-dire que je serais heureux, je rêve du moment où on puisse avoir un État européen. C'est-à-dire, bien sûr, décentraliser avec toute l'autonomie possible, mais un État. C'est-à-dire où je pourrais voter pour un chef de gouvernement, de mon gouvernement, qui s'appelle Rossi, mais aussi Dupont ou Gomet. Parce que je crois que la réalité aujourd'hui soit européenne. Malheureusement, cette Europe, disons, Union européenne, devient de plus en plus faible, incertaine, ce sentiment d'un destin commun, sans le courage de prendre des décisions. Je rêve vraiment d'un moment où les États d'aujourd'hui puissent être comme les régions pour l'Italie, comme la Toscane par rapport à l'Italie, etc. Bien sûr, avec toute l'organisation décentralisée, fédérale, mais là, on est très, très loin.
Vous avez dit que vous vous sentiez européen, surtout en fait à travers la littérature que vous lisez ou que vous avez lue. En quoi la littérature vous a-t-elle ouvert à ce sentiment européen ? Parce que quand on parle de vous, de Claudio Magris, c'est un petit peu comme Umberto Eco, s'il l'était, une sorte d'archétype de l'écrivain européen.
Alors, premièrement, je crois que ce n'est pas seulement, bien sûr, la littérature. Je crois que pour moi, l'Europe, c'est essentiellement certains points communs dans son histoire qui la différencient un peu des autres grandes civilisations. C'est-à-dire, premièrement, l'accent posé déjà au début, pas sur la totalité, mais sur l'individu, la démocratie, disons, en guillemets grec. Et là, c'est très
d'où
important.
D'où le personnage de roman, au fond,
oui,
aussi.
Oui, qui devient après le personnage du roman. Ouais. D'autres grandes civilisations ont posé l'accent sur la totalité, etc. De l'autre côté, d'avoir affirmé certains principes universel que aucune loi positive peut nier sans nier l'humanité. Pas écrite ou non écrite loi de Dieu dont parle Antigone.
Antigone, oui, oui, bien Antigone, sûr.
Peut-être la
c'est elle la figure, vraiment une des figures de l'individualité,
oui,
je veux dire, qui fonde l'Europe, en fait.
Oui, c'est une figure très complexe parce qu'il y a aussi un ancien droit de mort qui dirige l'action et le courage d'Antigone. Alors, c'est très complexe l'histoire d'Antigone. Mais cette idée qu'il y a des principes universels que aucune loi, même approuvée par un parlement, Hitler a été élu avec
bien
démocratie.
Sûr. Hélas, démocratiquement. Oui.
Voilà, il y avait un parlement qui a voté les lois raciales. Bien sûr, l'Europe a été la première à nier avec la politique coloniale, etc., ces principes. Mais ça reste. Et aussi, l'accent posé sur l'individu a quelque chose qui nous différencie un peu de nos cousins américains. C'est-à-dire, l'idée du bien-être général est quelque chose qui distingue vraiment l'Europe. C'est-à-dire, mon bien-être ne termine pas avec mes doigts, mais embrasse le monde qui m'entoure.
Je voudrais qu'on parle de votre nouveau livre, Claudio Magris. C'est un roman qui est publié chez Gallimard dans la collection L'Arpenteur. Le titre est le suivant, Classé sans suite. C'est traduit de l'italien par Jean et Marie-Noël Pasturo. En italien, c'est non luogo a procedere. C'est la traduction, ce terme juridique de classé sans suite, comme une affaire est classée sans suite.
Oui, alors, premièrement, je voudrais dire que ces livres-là dont vous avez parlé, c'est mon livre, mais pas seulement mon livre. Parce que c'est le livre italien, c'est moi qui l'ai écrit. Et ces livres-là, c'est nous qui l'avons
écrit. J'explique, voilà, pour les auditeurs, c'est vrai que la traduction.
La traduction.
Voilà.
Et pas,
pour vous, ce sont des auteurs, en fait, aussi, des co-auteurs.
Alors, oui, c'est co-auteurs. Et j'ai eu de grandes chances d'avoir Jean et Marie-Noël Pasturo. Ce n'est pas un livre facile à traduire. Et oui, c'est une expression juridique, bien sûr avec une certaine ironie, parce que classé sans suite, ou non luogo procedere en italien, signifie que ou rien s'est passé, et là se passent toutes les choses aussi les plus terribles, ou que ce qui s'est passé n'est pas objet de la justice.
Et
là,
l'effacer.
Ce sont des choses terribles qui font partie de la justice.
Alors justement, ce livre, je repensais à Danube, qui était une sorte de roman fleuve, là, on est dans le cas presque d'un roman musée, ou un musée roman. C'est peut-être d'ailleurs la même chose. On y découvre Louisa, qui est une femme dont l'histoire est très liée à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Louisa Brooks, qui est la fille d'une juive triestine qui a traversé la Shoah, et d'un sergent afro-américain arrivé dans la ville avec les Américains en 1945. Louisa, donc, est l'héritière de deux tragédies, la Shoah et la traite négrière. Et elle doit, Louisa, réfléchir à un projet de musée qui est né dans la tête d'un personnage excentrique, un triestin lui aussi, qui s'était mis en tête de collectionner les armes de toutes les époques, de la hache, je disais, d'une tribu du Paraguay, jusqu'aux chars d'assaut, des cimeterres aux grenades à fragmentation, pour en faire un musée qui serait tellement chargé de morts, de guerres, qu'il convertirait tout le monde, les visiteurs, à la paix. Et le plus fascinant, Claudio Magris, c'est que cet homme a existé, il a vraiment vécu à Trieste, il avait un nom espagnol, Don Diego Enriquez, et il a considérablement abîmé la vie de sa famille en se déployant, en se ruinant pour acquérir ses armes.
Oui, ce personnage a existé et j'étais toujours fasciné par la réalité, par les gens qui ont vraiment vécu. Parce que je crois que la réalité la vie est beaucoup plus originale, pas seulement que mes fictions, mais aussi que les plus grandes fictions. La vie est originale, disait Svevo. Truth is stranger than fiction, comme disait Mark Twain.
Oui.
Et je crois que chaque...
L'auteur quand même de l'art du mensonge, Mark Twain, entre
oui,
autres.
Oui, c'est ça. Et, bah, vous pensez, Turgenev avait dit que s'il n'avait pas connu un certain monsieur dans une petite ville de la Russie, il n'aurait pas créer son personnage immortel de Bazarov, qui bien sûr n'est pas ce monsieur, le monsieur n'est pas Bazarov, mais lui donne certains éléments. Alors, ce qui m'intéressait de cet homme qui a vraiment vécu, qui est vraiment mort dans un incendie oui. peut-être criminel, d'origine criminelle,
oui,
on
ne sait
pas.
Il est mort dans un incendie au milieu de toutes ces armes.
Au milieu de toutes ces armes.
Il dormait dans un cercueil.
Dormait dans un cercueil, oui, à la fin. Alors, ce qui m'intéressait de cet homme, c'était d'un côté, certainement, un amour de pour la paix, mais encore plus forte, une obsédante fascination de la guerre. Bien sûr, les musées dont on parle dans mon livre, c'est moi qui l'ai inventé, parce que les musées pratiquement n'existent pas. Il y a une salle à Trieste maintenant pour rendre hommage à cet homme après plusieurs années de silence, mais il n'y a rien, il y a un char, une mitrailleuse, il y a beaucoup de choses qui sont à combler dans les musées que j'ai inventés, je l'ai inventé comme parcours à travers les abîmes, les gouffres de l'histoire, et chaque arme raconte un peu l'histoire de celui ou de celui qui l'a empoigné, qui a tué, qui a été tué.
Exactement. Et c'est une façon de déployer les histoires à l'intérieur de votre histoire. Oui. Je voudrais qu'on
comme la lampe d'Aladin, qui, si on la frottait, faisait jaillir une histoire.
Non? Exactement. C'est un roman lampe d'Aladin. Je vous lis, Claudio Magris, je lis un extrait de Classé sans suite. PAK-40 de 75 mm contre T-34, tyrannosaure contre brontosaure, crocodile contre hippopotame à l'embouchure du Zambèze, vagues et jets de boue sanguinolentes, les éléphants indiens d'Antiochus III de Syrie croisent leur défense avec celle des éléphants d'Afrique de Ptolémée IV, Philopator d'Égypte, chacun des deux corps essayant de faire reculer l'autre jusqu'à ce que l'un des deux cède, se déplace sur le côté très peu mais juste assez, pour exposer son flanc aux défenses de l'ennemi qui le transperce. Pachyderme en fuite ou à terre, qui roulent comme des rochers dégringolants de la montagne. Cette fois, ce sont les éléphants d'Asie d'Antiochus qui mettent en déroute ceux d'Afrique de Ptolémée, peut-être parce que ceux gigantesques du Kenya et de la Côte d'Ivoire n'étaient pas sur le champ de bataille. Ils sont trop forts sans doute pour se plier à l'homme, pour tuer et mourir pour lui. Souligner combien la guerre moderne ressemble de plus en plus au combat énorme et effroyable de la préhistoire, forteresses volantes et dragons ailés, ptérodactyles fondant sur des allosaurus, reptiles cuirassés, ichthyosaures dans les marécages du Crétacé supérieur, tanks dans la jungle, excavatrices géantes démolissant des immeubles comme les dinosaures dans les films, monstres marins des abysses, il y a des centaines de millions d'années et aujourd'hui. Et en fait, il y a des centaines de millions d'années et aussi des centaines de pages absolument presque maniaques en fait de Claudio Magris où vous décrivez, ce sont des ekphrasis, comme on dit, la description d'une œuvre d'art avec une espèce de fascination qu'on ressent à chaque page. Et je tombe là-dessus, Claudio Magris, et je voudrais le lire. Le musée, comme un hypertexte mobile dans lequel tout défile, autrement dit disparaît et s'annule, comme cela s'était probablement produit dans sa tête, dans la tête de Diego Enriquez, l'inventeur de ce musée fou. Écrire un roman, c'est écrire un musée, Claudio Magris.
Disons que dans ce cas, pour moi, le musée devient l'histoire du roman, devient le roman, devient le parcours, l'itinéraire, beaucoup d'histoires où chaque objet raconte une histoire, l'histoire du soldat qui peut-être a été un héros fusillé par les nazis parce qu'il s'était refusé de tirer sur des otages inermes.
Oui, mais c'est comme des notices, en fait,
oui,
comme on voit dans un musée, une notice,
oui,
mais qui serait une notice énorme. Est-ce qu'être romancier, c'est pas aussi être un collectionneur avec ce côté maniaque d'un collectionneur qui lutte et qui cherche dans le monde entier différentes choses qu'il s'agit de rassembler alors qu'elles ont été éparpillées? Est-ce que c'est pas ça aussi, écrire un roman? C'est pour ça que je parlais du musée.
Oui, il y a ce côté maniaque que je partage un peu avec les protagonistes. Il y a beaucoup de maniaques dans mes livres, c'est pas par hasard. Et c'est vrai que la manie est très liée, pour moi, à la littérature, parce que la manie, d'un côté, est quelque chose de terrible, de mortel, d'idolatrique, de stérile, qui dessèche la vie et chaque désir. Les maniaques font peu l'amour, dit un ancien traité du Moyen-Âge.
Ah oui, les maniaques
font peu l'amour.
Pourquoi? Parce qu'ils pensent à autre chose?
Oui, parce que non, il y a comme...
Il y a les maniaques de l'amour qui doivent le faire beaucoup.
Cette fièvre qui se concentre seulement sur des choses mortes, sur les timbres, sur les armes, et pas sur la chair, sur les regards, sur une bouche. Sur...
Mais il y a des maniaques de la chair, quand même. Il y a eu des monuments de la littérature
oui,
là-dessus.
Bien sûr. Mais là, c'est une autre chose. Là,
quand on lit Tanizaki, par exemple, et tout ça.
Oui, bien sûr. Aussi, là. Oui. Mais de l'autre côté, la manie m'a intéressé parce que c'est aussi une défense, une cuirasse, quelque chose qui protège de la dévastation du monde. Parce que la foi en Dieu peut vaciller à Auschwitz, un amour peut finir, mais les choses, les timbres, les armes rassemblées par les maniaques sont toujours là, fidèles à leur morte insignifiante. Mais, et là c'est le point principal où il y a vraiment la littérature, la manie, disons les anciens grecs, c'était aussi la divine manie de la poésie. Oui. Les poètes possédés par les muses, c'est-à-dire une tension vers l'absolu. Et c'est ça que j'ai inventé l'histoire de ces maniaques qui, de sa manie stérile, complètement folle, si vous voulez, commence à se consacrer à une autre recherche, la recherche d'une terrible vérité qui concerne la lisière, etc.
Oui, on va en parler aussi de cette riserie, comme on dit en français. Je vous cite encore, vous dites stérile, mais il y a quand même ces phrases qui nous montrent que justement, Fukuyama, qui a voulu que l'histoire soit terminée, a totalement tort. La voilà l'histoire, morte, immobile, arrêtée, une pierre, une géode. Et pourtant, à l'intérieur, tout grouille et coule des milliards de corpuscules à une folle et inutile vitesse, maux de tête et trouble du langage. En fait, on a l'impression que dès que vous décrivez un objet, c'est toute l'histoire, non seulement de cet objet, plein d'histoires qui se mettent en branle autour, mais toute l'histoire de la guerre et l'incessant retour du même.
Oui, parce que dans mon musée, disons, il n'y a pas seulement chars ou mitrailleuses, mais il y a, par exemple, des cactus séchés, des certains acides que certains insectes se cernent.
Des méduses.
Dans leur guerre contre d'autres insectes, les méduses,
c'est ça.
Etc.
La guerre des êtres contre les êtres.
La guerre comme la vie en général, oui.
On a reçu dans cette émission Orhan Pamuk, qui, comme vous le savez, lui aussi a mis un roman en musée, ou un roman au musée d'ailleurs, au sens propre, puisqu'il a fait du Musée de l'Innocence, qui était d'ailleurs un roman qui parlait d'un projet de musée, il a rendu ce musée réel, on peut s'y promener à Istanbul, de salle en salle, à travers les chapitres de ce roman qui sont matérialisés par des vitrines qui contiennent les objets du roman, des robes, des souliers de femmes, ou qui ont même été reconstitués par des designers aussi. Votre musée, ce musée de la guerre, vous avez dit que vous vous êtes inspiré de cet Espagnol qui rêvait à ce musée. Quand on fait quelques recherches, on s'aperçoit qu'à Trieste, il existe, en tout cas en tant qu'embryon, ce musée de la guerre pour la paix.
Oui, alors ça existe. Les musées pratiquement n'existent pas, mais existe une chose terrible à Trieste, qui est le minotaure du labyrinthe de mon protagoniste.
Alors c'est, expliquez-nous.
Oui, c'était la rizière de San Saba, une ancienne, et là ça a été central pour moi, quelque chose qui m'a poussé à écrire. La rizière de San Saba était une ancienne usine pour les riz.
Le riz,
la nourriture. Oui. De l'époque austro-hongroise, de l'époque quand Trieste faisait partie de l'Empire, et où les nazis, pendant les deux derniers ans de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient occupé Trieste, avaient installé vraiment un petit camp d'extermination d'où les prisonniers italiens, slovènes, croates, mes suspects, beaucoup de juifs, bien sûr, étaient ou envoyés au grand camp d'extermination en Allemagne ou assassinés sur place. Et les cendres étaient brûlées dans un four crématoire, l'unique ayant existait en Italie.
Et vous dites que c'est le Minotaure, dans ce labyrinthe qui est votre
roman.
Oui,
dans ce labyrinthe.
Le Minotaure est un lieu.
Oui, est un lieu et surtout quelque chose d'inconnu jusqu'à un certain moment. Pendant plusieurs années, après la fin de la guerre, on a parlé de beaucoup de choses, des nazis, des otages pendus à l'Institut de la musique, des tortures de la Villa Triste, mais silence sur la rizière. Même dans les milieux antifascistes où j'ai grandi. Et c'est étrange, ce silence. Moi-même, par exemple, j'ai appris l'existence, je connaissais tout ce qui s'était passé.
C'est l'ancienne riserie de San Saba. C'est un faubourg de Trieste.
Oui, c'est un faubourg de Trieste, San Saba. Moi-même, par exemple, quand j'étais à Munich, j'avais 40 ans plus ou moins, c'est-à-dire il y a déjà beaucoup, mais temps, et j'étais professeur, et j'aurais pu voir en face le bureau numéro 3 Oberhausen, l'unique condamné dans un procès à la Lisière, en contumace, qui avait là sa brasserie, où il vivait très... Mais encore, je n'avais pas cette conscience. Maintenant, il y a beaucoup de livres d'histoire, là, on connaît tout.
Et pourquoi alors, ça c'est... Qu'est-ce qui a déclenché cette ouverture de,
non, mais,
de conscience
la grande question, c'est pourquoi ce silence, oui. Même la communauté juive a parlé très peu de ça. On a parlé de toutes les tortures, les persécutions, les juifs envoyés à Auschwitz ou à Treblinka, etc.
Sur les murs de leurs cellules, les victimes, en fait, celles qui étaient donc emprisonnées et torturées dans cette riserie, donc cette usine de riz, enfin, avaient gravé les noms de leurs bourreaux et les noms peut-être de ceux qui les avaient livrés à leurs bourreaux ou des gens de la bonne société triestine. Les murs ont été blanchis à la chaux, donc après la guerre, pour effacer les traces phosphorescentes, dirait Modiano, de ce passé. Voilà. Et alors, il est question de carnets qui ont brûlé avec votre personnage, carnets. Voilà. Et c'est aussi ça l'affaire du roman, classé sans suite, parce que on a pensé à un incendie criminel. Et ça, l'incendie est avéré.
Oui, alors, et une autre chose qui fait partie de la réalité, c'est que les Anglais, parce que Trieste a été gouverné jusqu'à 1954, à cause des problèmes Yougoslavie, Italie, etc., et quand Trieste est devenue une normale ville italienne, et les Anglais ont amené à Londres beaucoup de papiers, des documents, je ne sais pas s'il y a des carnets ou non, c'est seulement une supposition, mais c'est vrai qu'il y a encore des documents secrets. J'avais cherché à voir ce matériau, mais ce n'était pas possible.
Donc ils ont existé, le matériau, les carnets, cet homme-là, dont Diego Enriquez a écrit.
Je ne sais pas si, certainement, les Anglais ont amené avec eux, en retournant en 1954, à Londres, en Angleterre, et à Londres, il y a quelque chose. S'il y a ces carnets, probablement non, c'est seulement une idée à moi.
Donc ces murs ont été blanchis à la chaux, vous le racontez, pour effacer les traces de ce passé maudit. Et vous imaginez que l'homme qui a eu l'idée de ce musée avait peut-être recopié, avant que la chaux n'arrive, les noms, en fait, qu'il aurait mis dans des carnets. Oui. Et les carnets ont brûlé avec lui. Et c'est ce véritable incendie qui a été classé sans suite, dites-vous, dans le roman. Est-ce à dire que pour vous, le rôle de l'écrivain, finalement, à la manière d'un détective, c'est de rouvrir les dossiers, justement, de l'oubli, comme Homer avait rouvert les dossiers de la guerre de Troie, finalement?
Oui, de la guerre de Troie, et beaucoup de secrets, et le cheval de Troie, et beaucoup de choses que... Oui, je partage absolument ces dossiers. Et aussi, la littérature en soi... Même une littérature qui ne s'occupe des sujets tellement proches à la guerre, à la criminalité, mais la littérature en soi, c'est la recherche de quelque chose. Et c'est une activité policière, d'un certain côté. Même un roman d'amour, peut-être. Et surtout quand il s'agit de réouvrir les dossiers. Oui, c'est une définition formidable. Ouverture des dossiers.
On va marquer une pause et écouter votre choix musical. Votre premier choix, c'est un extrait de la sonate en la mineur, K3 de Domenico Scarlatti, interprété par Alexandre Tarot. Thank you.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des écrivains, par Christophe Naudibio.
Sonate en la mineur, K3 de Domenico Scarlatti, interprétée par Alexandre Tarot. C'est le premier choix musical de Claudio Magris, avec qui nous passons cette heure. Pourquoi ce choix musical, Claudio Magris?
Vous savez, pour moi, chaque choix en ce qui concerne l'art, la littérature, la musique est très difficile, parce que je suis vraiment polygame dans ce qui concerne l'art. C'est très difficile. Vous me demandez quel livre est-ce que vous vous portez, je dirais immédiatement un autre. Et Scarlatti, je l'aime beaucoup. J'ai choisi peut-être Scarlatti, que j'écoute fréquemment, parce que par rapport au roman, à tout ce bouleversement sauvage, à la matière, aux sueurs, alors Scarlatti, il y a une telle vision du malgré tout, d'une sérénité. Scarlatti m'aide, vraiment.
Déclenche des idées de livres, il déclenche des images.
Oui, de vivre avec harmonie malgré tout. Ce n'est pas une fausse harmonie comme du faux classicisme qui tout simplement est aveugle et ignore la brutalité de la réalité.
On passe cette heure avec vous à l'occasion de la parution de votre nouveau roman, Classé sans suite, chez Gallimard, dans la collection L'Arpenteur, où vous nous plongez dans un musée imaginaire et pas imaginaire, puisqu'il a été pensé, ce musée, par un gentilhomme triestin, donc après la guerre. C'est un musée qui regorge en fait d'armes de toutes les époques. À propos de ces armes, l'inventeur de ce musée pensait que si les visiteurs voyaient cette accumulation d'armes, ils se convertiraient non pas à la guerre, mais à la paix. C'est un paradoxe, c'est une parabole. Vous nous le racontez, ce musée, par l'intermédiaire d'un personnage de femme, Louisa, qui est un enfant de la guerre, né d'une mère marquée par la Shoah, et d'un père afro-américain que son histoire ramène, lui, à la traite négrière. Je me souviens d'une phrase que vous aviez prononcée dans une interview il y a quelques années. Vous disiez « Je crois que nous sommes entrés dans la 4e guerre mondiale », en rappelant que la 3e, c'était la guerre froide, et que c'est une 4e guerre mondiale où on ne sait plus, au fond, qui est l'ennemi, qui est l'ami. C'est quoi ce sentiment d'une 4e guerre mondiale? Qu'est-ce qui le fonde? Et est-ce que c'est cette conviction qui vous a amené à écrire ce livre?
Je crois que nous sommes vraiment dans la 4e guerre mondiale, parce qu'il y a la guerre partout, il y a très peu de pays où il n'y a pas de guerre. C'est vraiment, on lit chaque jour dans les journaux, il y a la guerre en Syrie, au Moyen-Orient, dans d'autres pays. La 3e guerre mondiale, bon, l'Occident a gagné et le monde soviétique, communiste, comme vous voulez, a perdu. Non? Et la 2e guerre mondiale, l'Allemagne nazie a perdu. Maintenant, qui est l'ami, l'allié et qui est l'ennemi? L'Arabie saoudite qui aide les djihadistes et qui est très proche aux États-Unis est notre allié ou notre ennemi?
Est-ce que cette 4e guerre mondiale dont vous nous parlez, elle est fondée par les passions identitaires qui sont aujourd'hui de plus en plus à l'œuvre? Parce que je voudrais qu'on parle un peu de Trieste. Vous venez de Trieste, vous êtes né à Trieste en 1939, qui est une date évidemment qui n'est pas anodine quand on parle de guerre. C'est une ville qui a été revendiquée par de nombreux peuples. C'est la ville irrédente, comme on dit, irrédentiste. Géographiquement, elle est au carrefour des influences italiennes, germaniques, slaves. Elle est parfois considérée comme la dernière ville du nord-est de l'Italie ou comme la ville de l'extrême sud de l'Europe centrale. Rien qu'à travers cela, elle est le lieu de plusieurs identités. Malgré justement ce carrefour ouvert à tous les mondes, elle a été totalement traversée par, ces conflits identitaires. On aurait pu croire que c'était une ville totalement ouverte.
C'est vrai, mais c'était vrai aussi le contraire. Parce que la frontière, parfois, est un pont qui unit et parfois c'est un mur qui sépare, bien sûr. Et les territoires des frontières sont très souvent vraiment incendiés par les fièvres identitaires. Et c'est là où le nationalisme se déchaîne avec plus de violence, plus de force. Et je crois que c'est une des choses, une des pas nombreuses choses qui me donne de la confiance optimiste, c'est vraiment, en ce qui concerne Trieste, maintenant on a fait vraiment des progrès parce que finalement les problèmes de relations entre italiens et slovènes, je parle des slovènes de Trieste, je ne parle pas des slovènes qui sont triestins comme moi. Alors là, c'est vraiment une relation tranquille, normale, sans fièvre identitaire, sauf certains nationalistes italiens et aussi il y en a quelqu'un slovène qui n'ont plus d'importance. Je crois que, comme a écrit l'écrivain italien Roberto Toscano, il faudrait parler seulement et toujours au pluriel de l'identité, parce qu'on n'a pas seulement l'identité nationale, on a, pas seulement, on a une identité politique, par exemple. Je suis plus proche à un libéral de l'Uruguay qu'un fasciste de Trieste, une identité sexuelle, une identité culturelle, qui est très importante, identité religieuse, si vous voulez.
On l'a vu un petit peu à Barcelone, Vargas Llosa, d'ailleurs, écrivain, oui, prix Nobel de littérature, qui est né au Pérou, mais qui a la nationalité espagnole, qui l'a demandé depuis 1993.
Oui.
On l'a vu devant des centaines de milliers de personnes défendre l'unité du pays, dénoncer ce qu'il appelait le fanatisme, le racisme,
Javier,
la conjuration
Javier Marías aussi.
Javier Marías aussi. On l'a vu célébrer en espagnol et en catalan une capitale culturelle ouverte. Il connaissait bien Barcelone, il y avait vécu. Cette Europe qui se désunit, c'est un mal nécessaire pour vous ou ça vous inquiète?
Non, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est une chose terrible qui va affaiblir. Et l'Union européenne devrait avoir plus d'énergie. Parce qu'on a toujours l'impression que l'Union européenne se met comme dans une réception diplomatique.
Dans un numéro d'études germaniques, vous aviez publié un article intitulé « Littérature de frontières, itinéraire d'un écrivain », où vous évoquiez un vieux poète de Trieste, Biagio Marin. Voilà, qui raconte en fait que en 1915, quand il faisait ses études, évidemment il y avait la guerre, peu de temps avant l'entrée en guerre de l'Italie, il est convoqué par le recteur de Vienne, qui lui parle en allemand et qui lui dit « Jeune homme, que voulez-vous ?» Et il dit « Eh bien, je veux la guerre avec l'Autriche et le rattachement de Trieste en Italie. » Et en fait, quelques semaines plus tard, Marine, qui est engagée comme volontaire dans l'armée italienne, qui se bat contre les Autrichiens, se fait mal parler par des Italiens et dit « Nous autres, Autrichiens, nous sommes habitués à d'autres façons, qu'on nous parle mieux. » Et vous expliquez assez bien comment cette idée de frontière sur laquelle il vit, puisqu'il vit à Trieste, lui donne le sentiment d'être toujours de l'autre côté, toujours un autre que lui-même. Et je voulais vous demander, Claudio Magris, si finalement, c'est pas aussi la définition de l'écrivain, celui qui est toujours de l'autre côté, où qu'il soit.
Oui, Marie a été un grand ami à moi, malgré l'énorme différence d'âge. Et ça m'a aidé beaucoup. Mon amitié, vraiment amitié, avec Marine et avec un autre écrivain de cette époque-là, c'est-à-dire qui était déjà des jeunes hommes avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la génération qui aurait pu être la génération de mes grands-parents, elle m'a permis de connaître ce monde triestin avant la guerre. Pas seulement à travers les livres, la littérature, mais à travers les souvenirs directs, les passions, les sentiments, les colères. Et avec Marie, ça a été une grande amitié. Oui, l'écrivain, être de l'autre côté, signifie pas une distance froide envers le monde qui nous entoure, mais c'est de savoir qu'il n'y a pas seulement ce que on est d'une façon plus évidente, mais qu'il y a des parties de nous qui peuvent parfois refoulées, parfois inconnues, qu'il faut vraiment redécouvrir et qui est un enrichissement de la personnalité. Et c'est une façon aussi d'amour. Il faut savoir ça, qui n'a rien à faire avec une coquetterie internationale, rien à voir avec une jet society, mais c'est une appartenance qui est complexe, c'est-à-dire plus riche, d'une façon très simple, très immédiate, très spontanée. Pour et moi, le monde slovène fait partie de mon monde, ce n'est pas un choix.
Et c'est pour ça que Trieste a produit tant d'écrivains, enfin moi, Italo Svevo, évidemment, c'est aussi une explication, finalement.
Je crois qu'à part la grande Trieste, il y a des écrivains énorme, Svevo et Sabat, et d'autres qui sont des écrivains très intéressants, Tomizza, Quanto di Gambini, bon. Et je crois que la littérature a joué un grand rôle, parce que quand on ne sait pas ce qu'on est, alors la littérature, c'est un territoire où on cherche sa propre identité.
Sans cette expérience de la frontière, vos livres n'auraient pas pu voir le jour. Je pense à ce premier roman, Enquête sur un sabre, par exemple, qui raconte une expérience, en fait, de frontières à la fois perdues et retrouvées, et qui est inspirée par un souvenir de l'hiver 1944-1945, où vous viviez là, non pas à Trieste, mais à Udine, avec votre mère. Vous nous expliquez que ce roman, en fait, est né de l'idée, à l'époque, Udine était occupé par les Allemands et par des Cosaques, à qui on avait promis un pays cosaque, un Kosakenland à Udine. Et que vous avez vu à l'époque des chameaux, il y avait une cour cosaque.
Des chameaux, une fois dans l'année.
Ouais. C'est tout ça qui a fasciné aussi, fasciné.
Oui, j'avais vu, bien sûr, je ne savais rien de ces gens-là. Et après, j'ai voulu m'intéresser, l'histoire en soi, pas mon récit, formidable. Alors, d'un côté, cette patrie promise aux Cosaques qui étaient victimes de Staline. Alors, c'était une exigence, un droit d'avoir une patrie. Ces patries auraient dû être situées de quelque part en Russie si les nazis avaient gagné la guerre. Heureusement, comme la guerre était toujours pire pour l'Allemagne, il s'est retiré. Alors, cette patrie était déplacée dans la carte géographique comme dans un jeu Monopoly. Et à la fin, elle avait été située pour 2 ou 3 mois entre Trieste et Udine, la Carnia, une région campagnarde de collineuse, où les vieux atamans cosaques Krasnov, qui avaient déjà combattu, combattu contre les Rouges et perdu après la Première Guerre mondiale, avaient installé dans un petit hôtel une cour cosaque. Ce qui était fascinant, c'était l'histoire. Alors, Krasnov, on a cru plusieurs années que Krasnov était mort pendant les derniers combats avec les partisans, quand il cherchait à rompre l'encerclement, en mettant pas son uniforme coloré d'ataman du passé, mais un uniforme d'un private, d'un soldat simple. Et on avait identifié, on sait maintenant que Krasnov a réussi à rejoindre les Anglais, qui lui avait promis de ne pas rendre lui et ses gens aux Russes, ils les ont délivrés, et beaucoup se sont suicidés dans la drave, et Krasnov a été pendu à Moscou en 1947. Mais même après avoir connu la vérité historique, il y avait encore des gens qui croyaient, qui voulaient croire que Krasnov était mort inconnu là. Et moi-même, et là c'est intéressant, l'origine, j'avais écrit un article sur le Corriere della Sera en racontant bien sûr la véritable histoire de Krasnov pendu à Moscou, parce qu'autrement le Corriere della Sera m'avait licencié si j'avais raconté des choses. Mais à la fin, quand j'ai relu mon article, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de conditionnels, concessives, quoique, bien que, etc. Comme si j'ai voulait suggérer au lecteur de ne pas nécessairement croire à la version que j'étais obligé à donner. Alors je me suis demandé, pourquoi moi-même je voudrais que Krasnov soit mort là et pas là? Quelle vérité humaine, poétique, y a-t-il dans ce désir de croire à une vérité historiquement fausse?
Il y avait l'histoire, parce que, je le dis pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas lu ce premier roman, de Krasnov, ce chef cosaque donc qui vit à Udine, avec qui reconstitue une cour cosaque dans l'espoir d'avoir un territoire cosaque. Ce cosaque était pendu en fait à Moscou, vous le savez, mais dans le livre, finalement, vous posez des indices qui emmènent le lecteur vers une autre vérité que la vérité historique.
Oui, parce que, comme disait Manzoni, les historiennes reconstruisent la réalité. Et les écrivains cherchent à comprendre comment les hommes ont vécu cette réalité. Et je voulais donner, parce que c'est un sujet borgesien, et quand j'ai rencontré Borges, j'ai passé un jour avec lui à Venise, au Lido de Venise, vous pouvez écrire un récit formidable, et il m'a caressé à travers
les bras. Caressé l'épaule,
Non, c'est l'histoire de votre vie, écrivez-le, ainsi la littérature universelle a perdu un chef-d'œuvre, et moi, je me suis débloqué.
Oh, perdu un chef-d'œuvre, c'est quand même
premier,
pas mal.
ma première fiction.
Premier livre. C'est pour ça que vous avez écrit aussi Danube, pour suivre une force de la nature, une force littéraire. Il y a beaucoup de mythes dans Danube. Pour suivre un fleuve, finalement, qui se joue des frontières, et faire un livre aussi qui se joue des frontières, pour les dépasser, pour les transcender.
Vous savez, quand j'ai commencé à écrire le livre, je n'avais aucune idée de quel livre j'étais en train d'écrire. Si c'était un essai, un reportage, ou comme ça s'est passé, un roman submergé, ou le personnage qui dit « moi » a beaucoup de choses que je lui ai prêtées, mais ce n'est pas moi. À la fin, il meurt et je suis ici à parler avec vous aussi d'autres livres.
Non, je pense à ça parce que on a l'impression d'une vengeance. Vous avez écrit avec Vargas Llosa ce texte « La littérature est une vengeance ». Et je me suis dit, en fait, avec Danube, il a voulu se venger finalement des frontières en collant à la nature et à tous les mythes que charrie ce fleuve pour exploser ses frontières.
Oui, là c'était vraiment une aventure. Bien sûr, je n'aurais pas pu choisir le Volga ou la Seine parce que je n'avais assez familiarité avec ce monde-là et la culture, même pas avec le Mississippi. Et là, je suivais, c'était un peu le fleuve de la vie, de l'histoire, des différentes histoires, des différentes langues. Et c'était aussi les voyages dans un monde toujours plus inconnu, parce que au début, les voyageurs ont le sentiment de se mouvoir dans un monde qu'avec sa culture allemande, mitteuropéenne, il peut comprendre, mais plus il avance, moins il comprend des langues, des cultures, des habitudes, et à la fin, c'est tout comme des bois de la nature, où les langues deviennent comme les souffles du vent et de la mer.
On va marquer une pause, Claudio Magris, et écouter votre deuxième choix musical. Vous avez choisi Schubert, Der Erlkönig, le roi des Aulnes. C'est interprété par Dietrich Fischer-Dieskau. Schubert, Der Erlkönig, interprété par Dietrich Fischer-Dieskau. C'est le deuxième choix musical de Claudio Magris, avec lequel nous passons cette heure à l'occasion de la parution de son nouveau roman Classé sans suite, qui nous raconte le rêve, l'utopie d'un homme qui voulut construire un musée qui regorgerait tellement d'armes qu'il convertirait les visiteurs à la paix. Pourquoi ce choix musical qui nous ramène à Goethe?
J'aime beaucoup les leaders. Les leaders, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et ça, c'est la découverte de la magie de les poèmes, la poésie, comme notre, le roi de Thule, a une musique qui m'a toujours fasciné. Et ça, c'est lié aussi à la première rencontre importante, décisive, avec la culture, la poésie allemande. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé, j'ai pas d'allemand, j'ai enseigné toute ma vie littérature allemande.
J'avais traduit Kleist,
oui,
Schnitzler.
Oui, mais j'ai appris l'allemand quand j'avais 10 ans à l'école. Mes parents, et ça, certainement, ça a à voir avec Trieste, où, proportionnellement, les nombres, il y avait plus de jeunes élèves qui étudiaient l'allemand que dans d'autres villes à cette époque-là, au moins, maintenant, c'est l'anglais, bien sûr, qui fait disparaître presque toutes les autres langues. Et alors, j'avais un formidable et étrange, bizarre professeur, enseignant d'allemand, qui, nous avons 12 ans, et qui nous faisait lire les journaux. Il a fait écouter les leaders, Schubert et Schumann, c'est formidable. Il nous introduisait dans cette âme allemande, dans cette culture profonde. Il a fait lire, on avait 11 ans, 12 ans, les lettres de Luther, où il parle avec des expressions obscènes, des insultes du roi de l'Angleterre et de ça. Et là, ça m'a marqué profondément. C'était comme l'entrée dans le monde de la poésie allemande et dans le monde de la grande différence entre poésie et politique. Et je me souviens d'une grande leçon parce qu'il m'a posé, vous savez, j'avais 14 ans, il m'a demandé de parler sur les relations entre les Faust de Goethe et la Révolution française. C'est-à-dire quelque chose que j'aurais étudié quand j'avais 24 ans à l'université. Et moi, je me souviens, j'ai commencé à dire, oui, je pense, qu'est-ce que tu veux penser, imbécile? Et il a dit, et là, j'ai appris une chose pour toujours. Alors, il fait une très brève leçon en expliquant cette terrible histoire de l'Allemagne, qui est une grande floraison culturelle, mais pas de libération politique. Alors, et sur cette tragédie, qui a été terrible pour l'Allemagne, pour l'Europe, Magris pense. Il sera tellement généreux de nous donner les résultats de sa pensée.
Ah, et ça vous a motivé? Ça, l'écrivain, voilà,
non,
l'écrivain
non,
est né ce jour-là.
Ça m'a motivé de comprendre que c'est intéressant, ce n'est pas ce que je pense de la France aujourd'hui, mais ma capacité d'écouter et d'apprendre ce que c'est la France ou l'Allemagne ou la culture française. Il y a une expression italienne, je n'ai pas à dire la dire en français, dire la mia. c'est-à-dire exposer avec arrogance ma pensée et mon opinion.
Alors, je voudrais qu'on parle d'une autre frontière, qui est la frontière entre mensonge et vérité. Ouais. À la fin du livre, il y a une note où vous rendez hommage à cet homme, Diego de Henriquez, donc cet inventeur de ce musée de la guerre pour la paix, pour provoquer la paix. Cet homme qui a existé, mais où vous rendez aussi hommage au droit d'inventer, donc de mentir pour un écrivain. Je vous cite. « Les écrivains, les Grecs le clamaient déjà, racontent beaucoup de mensonges, autrement dit, ils inventent. Mais l'étymologie suggère qu'inventer est étroitement lié à trouver, inventio, invenire, quelque chose, une histoire, un personnage, un détail, de réel, de vrai. » Toute invention, grande ou modeste, se nourrit de faits qui se sont réellement produits et de personnes qui ont réellement existé et que la vie, toujours terriblement originale, écrivait Svevo, fait inopinément arriver entre leurs mains. Alors vous citez Tourguenieff, vous citez Thomas Mann qui disait qu'il avait absolument le droit de prendre ce qu'il voulait dans la vie des gens qui l'intéressaient.
D'où il lui semblait bon, non ? De prendre, oui.
Voilà. Mais tout écrivain, au fond, est un menteur pour vous, puisque vous le dites, hein, c'est trouver, invenire, mais c'est aussi mentir. Les Grecs nous le rappelaient, c'est mentir.
Oui, polla pseudontai aiodoi, disait, les poètes disent beaucoup de mensonges, c'est le dicton grec. Mais je crois que ce ne sont pas des mensonges, ce sont des métaphores. Alors, la métaphore est aussi une vérité, mais une vérité qui n'est pas la vérité littérale. Une chose, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui à Londres. Je ne suis pas à Londres, je suis à Paris. Et là, c'est un mensonge stupide, mais bon. Et une autre chose, c'est dire que l'aurore a des doigts de rose. Alors, ce n'est pas un mensonge.
Oui. Bien sûr, l'aurore aux doigts de rose, voilà.
Bien sûr, il n'y a pas une femme qui s'appelle Aurore et qui a les doigts de rose. Alors, le problème est beaucoup plus compliqué que dans l'exemple que j'ai fait, parce que parfois, la correction de la vérité peut être nécessaire. Parfois peut-être une manifestation d'amour, parfois peut-être une manifestation de vengeance. Et alors c'est compliqué. Et il y a toujours dans la littérature, peut-être plus que dans des autres arts, quelque chose qui peut être ou cruel ou douloureux. Parce que représenter, Thomas Mann l'a bien sûr, représenter une personne, quelqu'un qui peut se reconnaître même avec d'autres noms, pas reconnaître dans les faits qui lui sont attribués, mais qui découvre comment un autre a regardé son corps, ses gestes, la sueur qui lui coulait, ça peut être vraiment douloureux et, comme je disais, cruel.
Mais vous pensez que les écrivains ont quand même le droit de le faire, même si c'est cruel? Est-ce qu'ils ont le droit, finalement,
oui, ils ont le droit de
au nom de la littérature?
Oui, ils ont le droit de faire, bien sûr, mais il faut être conscient et aussi responsable. Là, il y a une certaine condition dramatique que je sens très fortement. L'idée que quelqu'un puisse reconnaître dans la description d'un visage et dans la description des aspects un peu négatifs, disons, ça c'est un peu douloureux, mais on a le droit, bien sûr, mais ce n'est pas facile.
C'est étonnant, parce que vous aviez écrit en 1999, c'était un très beau recueil d'essais qui s'intitulait « Utopie et désenchantement ». Si Dieu s'incarne, c'est la littérature qui peut raconter cette incarnation en montrant l'absolu dans les gestes quotidiens. Ou justement cette sueur dont vous parliez sur un pot. Donc finalement, si c'est l'incarnation de Dieu, ça vaut le coup quand même.
Non,
qui est en jeu.
Non, pas l'incarnation de Dieu, vous savez. Je crois, par rapport à ça, il ne faut pas oublier l'histoire chassidique, la tradition talmudique qui dit que la création dont nous vivons a été précédée par 36 tentatives faillies de Dieu de créer le monde. Et même la 36e n'est pas très bonne. Il y a cette histoire merveilleuse que j'ai racontée dans un livre que j'ai consacré à la tradition juive orientale. C'est l'histoire d'un ingénieur qui arrive dans une petite ville de l'Europe orientale. Il est un juif assimilé. Il doit bâtir quelque chose. Il a besoin d'un paire de pantalons. Alors, on lui envoie un couturier qui arrive, et c'est l'homme le plus pieux, le plus religieux de toute la communauté juive. Et il arrive, il commence à prendre les mesures avec tout cet amour pour le travail. Après 2 mois, le travail de l'ingénieur est terminé, les pantalons ne sont pas encore terminés, il s'en va, l'ingénieur. ingénieur. Il retourne 2 ans après pour contrôler l'œuvre qu'il a fait. Et ce couturier arrive tout souriant, ce petit juif, en lui montrant les pantalons. Tu sais, vous voyez, je les ai terminés l'autre semaine. Mon Dieu, le Seigneur a créé le monde en 6 jours et vous avez besoin de 2 ans pour les pantalons. Oui, répond l'homme religieux, mais regardez comment est fait le monde et regardez comment sont faits ses pantalons. C'est facile de travailler comme lui.
On vous entend là prendre beaucoup de plaisir à raconter cette histoire. Vous êtes toujours finalement habité par cette certitude qu'on a besoin de récits, on a besoin de littérature, on a besoin de raconter des histoires, peut-être plus que de philosopher pour comprendre le monde.
Oui.
La littérature?
Oui, ouais. Alors, je ne vais pas dire que la littérature n'est ni plus ni moins que...
Que la littérature reste un instrument de compréhension du monde.
Je crois que les histoires sont quelque chose qui relie. Par exemple, les histoires ont affaire avec une des choses plus importantes de la vie, l'amitié. Et les histoires que j'ai racontées, soit de moi-même à mes amis, ou les histoires que m'ont racontées mes amis, parfois c'est difficile pour moi de les distinguer. Ils sont devenus partie de ma vie et c'est quelque chose qui lie. Incroyable. C'est pour ça que dans la tradition religieuse chassidique, raconter des histoires était un fait religieux. Et pas d'histoire religieuse, c'était une histoire aussi érotique, très drôle. Parce que religio signifie relier, des liens. Et je crois que les histoires créent des liens entre les hommes.
Mais est-ce que ça crée des liens ou est-ce que ça nous aide à comprendre aussi le monde? Finalement, est-ce que quand un enfant, un adolescent, un adulte lit, est-ce qu'il comprend un petit peu mieux le monde? Parce que c'est très curieux, il y a de grands écrivains, si on pense à Céline par exemple, Voyage au bout de la nuit, livre magnifique, et pourtant, politiquement, les choix ont été, ou Knut Hamsun, les choix ont été mauvais.
Oui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que les écrivains comprennent mieux, par exemple, la politique, etc. Beaucoup, parmi les plus grands écrivains du siècle passé, ont été fascistes, nazis, stalinistes, et Céline, Hamsun, que j'adore, Pirandello, qui envoie le télégramme de solidarité à Mussolini après le meurtre de Matteotti, les Aragon et les Français qui vont trépieux à Moscou pour assister à la potence des camarades.
À la pendaison.
Il n'y a jamais une certitude sur la capacité de comprendre et d'aimer les autres et le monde. On peut être grand le mercredi et horrible le jeudi. Si j'avais écrit la Divine Comédie ou le Hamlet, je n'aurais aucune difficulté à dire j'écris le livre plus grand qui a été écrit dans l'histoire universelle. Bon. Mais je ne serais absolument pas sûr de comprendre la réalité autour de moi mieux que quelqu'un qui est à côté de moi. Parce que peut-être que les jours suivants, dans une certaine situation, que j'étais le plus imbécile. Et que Dante ou Shakespeare ou qu'est-ce que vous voulez. Là, il doit aucune idolâtrie. C'est pour ça que je déteste l'idée de la littérature ou de l'intellectuel comme une église laïque, comme des prêtres laïques qui comprennent toujours mieux le monde que les autres. Céline a compris beaucoup moins que les autres.
Un mot pour terminer quand même d'Homère, parce que vous y faites référence. Hein, à un moment, il est question dans le musée d'un sous-marin où on descend comme dans une salle. C'est absolument magnifique, bleuté comme dans un aquarium. C'est l'histoire en fait d'un sous-marinier qui se souvient qu'en fait, quand il était petit, il avait une couverture, une édition allemande de contes avec le titre en caractère gothique, « Noir sur les crêtes blanches des vagues de l'illustration », écrivez-vous. Et en fait, il pense à Ulysse et Calypso et aussi à ce conte japonais Urashima. Où à chaque fois, c'est la même histoire, finalement. Oui. Ulysse, dans sa grotte de Calypso, quand il sort, il s'aperçoit que le temps s'est écoulé. Il a passé 7 ans, en fait. Hein. Et Urashima, c'est pratiquement une vie dans le palais sous-marin de la Reine des Mers. Et au fond, c'est ça que vous aimez, Claudio Magris. Vous dites, voilà, les écrivains, peu importe qu'ils aient existé ou pas, je veux pas les en faire des sanctuaires ou des grands prêtres d'église.
Non, absolument.
Mais l'histoire telle quelle, parce que les mythes sont essentiels dans votre littérature. Les Argonautes, vous en parlez toujours.
Disons, c'est la capacité que certains ont eue de nous donner un visage du monde, d'une couleur. Quelqu'un qui est un peintre ou un écrivain qui peut nous faire comprendre qu'est-ce que peut signifier le bleu, par exemple. Et là, j'ajoute, ce n'est pas dit qu'il est plus intelligent pour comprendre la politique de Macron ou qu'est-ce qu'il voulait.
Daniel Mendelssohn, qui enseigne à Bard College, raconte dans son dernier livre qu'il avait des étudiants à qui il faisait un cours sur Homère, sur l'Odyssée. Et en fait, ses étudiants lui ont dit, mais en fait, ce que raconte Ulysse chez Nausicaa, chez les Phéaciens, peut-être qu'il a tout inventé, peut-être que c'est le premier, non pas seulement mythographe, oui. mais mythomane.
Mythomane, peut-être, voilà. oui.
Donc ça, le...
Comme Ulysse, c'est un menteur.
Exactement, Polytropos. C'est ça qui fonde aussi la beauté de la littérature, le fait que, au fond, peu importe que ça soit vrai, que ça soit faux, tant qu'il y a ces histoires-là,
alors,
on comprend un peu mieux le monde.
Peu importe si on ne veut pas tromper les autres en disant que alors, si j'ai dit que monsieur ou madame là a tué quelqu'un, ça, c'est très important de savoir si c'est vrai ou non, parce qu'envoyer quelqu'un en prison ou non, c'est très important et aucun chef-d'œuvre peut le justifier. Ça n'importe absolument pas de savoir si quelqu'un a vraiment existé, si nous recevons une épiphanie de la vie. Et c'est là la vérité différente de la littérature, pas la vérité comme correspondance à une situation matérielle, mais comme révélation de quelque chose de l'âme humaine ou de l'histoire, des gens qui ont vécu, qui sont morts, qui ont souffert, qui ont aimé, et comme ça.
Merci beaucoup, Claudio Magris.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le titre de votre dernier livre, Classé sans suite. C'est un roman, c'est traduit l'italien par Jean et Marie-Noël Pastureau, que vous considérez donc comme des co-auteurs, parce
absolument.
Que vous êtes traducteur vous-même.
Absolument, ouais. Oui, moi je suis traducteur moi-même, mais je leur suis très très reconnaissant pour ça.
Voilà, ils sont auteurs de ce texte en oui, français, comme co-auteur. Vous l'avez écrit en italien. On se quitte avec votre dernier choix musical. Vous avez choisi « Sometimes I feel like a motherless child ». Parfois, je me sens comme un enfant privé de mère. On a choisi une version de Paul Robeson. C'est l'une des premières versions enregistrées, le 7 janvier 1926, avec Lawrence Brown au piano. Pourquoi ce choix musical ?
Quand j'étais vraiment encore un garçon, je me suis très intéressé à ces problèmes, à la situation des Noirs, de la culture, de la littérature. J'ai commencé à lire des spirituals, des blues, à les entendre. J'ai trouvé génial, par exemple, que ce spiritual si a été choisi par Pasolini dans son évangile, les souffrances de Jésus. Et ça est lié aussi au rôle que l'élément, disons, noir, pour être synthétique, joue dans mon livre, qui est très important.
L'élément noir est le père de Louisa.
Oui, oui, oui. Et vous savez, je peux terminer avec cette anecdote, mais c'est vrai. Mon anniversaire, c'est le 10 avril. Et on fêtait mon anniversaire le 10 avril. Et une fois, m'a raconté mon père, je l'avais oublié, je lui ai prié de fêter mon anniversaire le 9 avril. Bon, a dit mon père, si tu veux, volontiers, mais que je peux te demander pourquoi. Et moi, ça semble que j'ai répondu avec une rhétorique comme Enjolras quand il dit dans Le Misérable, citoyen, ma mère est la République. J'ai dit, parce que le 9 avril 1863, à Appomattox, en Virginie, Abraham Lincoln a déclaré libre des esclaves noirs. Alors ça s'était resté comme on riait de moi. C'est pour ça que c'est un élément qui joue un rôle dans ma... pas culture, je n'ai pas une véritable culture sur la musique, mais je l'aime beaucoup, je l'écoute, alors c'est ça.
Merci beaucoup, Claudio Magris.
Merci, grazie. Sometimes I feel like I'm almost gone, a long ways from home, a long ways from home.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel à la réalisation, prise de son Frédéric Kérou, mixage Stéphane Démon. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr, cette émission avec Claudio Magris.